Monseigneur Ayet, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour cette émission mensuelle avec vous, Monseigneur, pour parler de divers sujets, beaucoup de sujets, puisque nous ne nous sommes pas vus depuis avant les vacances d'été. Donc peut-être revenir sur les actualités de l'été, parler des jeunes aussi. Et puis nous parlerons des questions sociétales qui se posent à l'horizon des élections. Et puis finir sur cette nouvelle année pastorale qui a été lancée. Alors pour commencer sur les actualités de l'été, ce sont bien sûr les actes terroristes avec cet attentat de Nice le 14 juillet, l'assassinat du père Hamel. Quel est votre ressenti en tant qu'évêque sur ces attentats d'une violence extrême qui ont atteint notre pays?
Ben c'est sûr que ces actes terroristes ont quand même ensanglanté notre pays pendant cet été en s'attaquant à des symboles très forts de notre identité et cohésion nationale. C'est pas pour rien en effet que le choix du 14 juillet, même s'il s'agissait d'un moment un peu à la fois convivial et ludique, à travers ces traditionnels feux d'artifice de la promenade des Anglais à Nice, et puis encore plus, je dirais, l'assassinat d'un prêtre, hein, du père Hamel. Et on voit en effet que, d'une certaine manière, au-delà même des frontières de l'Église, la société française en entier a été très frappée, hein, du plus haut au bas de l'échelle sociale de notre pays, par l'assassinat d'un prêtre qui venait de célébrer la messe dans son église de Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen. Et mon ressenti, évidemment, ça a été, ben, comme tout le monde, une espèce d'effroi devant ce terrorisme aveugle, toujours imprévisible, et d'une violence inouïe et sans aucune raison préalable.
Hein. Le fait que ce soit un prêtre et que vous soyez prêtre vous-même, ça vous a plus touché?
C'est sûr que je pense que plus d'un prêtre, et l'évêque que je suis n'est sans doute pas indemne, on s'est dit, ah bon, ben maintenant ce sont des cibles religieuses, donc on a passé en plus un cap qui est un peu nouveau. C'est pas seulement des foules, c'est pas seulement, même si c'est toujours chez eux, au nom d'Allah, hein, en criant Allah Akbar, mais quand il s'agit d'un prêtre, il s'agit donc d'une cible religieuse et qui pourrait nous faire croire, même si je ne crois pas que ce soit exactement cela, comme le pape François l'a lui-même rappelé, à une guerre de religion. Hein. En tout cas, c'est une guerre qui est déclarée à la France et par ces terroristes islamistes à la France chrétienne. Hein, dont nous oublions parfois, nous, nos racines. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Ben, d'abord que c'est évidemment inacceptable, hein, et qu'il n'y a aucune justification possible à ce genre d'assassinat terroriste qui frappe de plus en plus aveuglément et de plus en plus inattendu. Mais je me dis aussi que ça révèle un profond malaise dans notre société. C'est sûr qu'il y a un vrai vide intérieur qui n'est pas comblé par les fameuses valeurs que l'on propose au niveau de la République, au niveau de la laïcité. Hein. On prétend répondre à un mal qui est existentiel par la laïcité. Je ne dis même pas seulement on prétend répondre à un mal religieux, parce qu'en l'occurrence, on peut aussi se demander si on peut vraiment justifier religieusement une telle violence, hein, comme disait le pape à l'homélie qu'il a prononcée pour la messe qu'il a célébrée dans la maison Sainte-Marthe pour en mémoire du père Jacques Hamel. Il dit il faudrait que toutes les confessions religieuses se réunissent pour dire ensemble, quand on tue au nom de la religion ou au nom de Dieu, c'est satanique. Vous voyez, c'est satanique. Et ce qui lui a fait donner cette impression, c'est que père Hamel, les dernières paroles qu'il a prononcées quand il était quasiment mort, en essayant de se débattre un peu ou de repousser son assassin, il a dit « Va-t'en Satan, va-t'en Satan ». Donc c'est vraiment le mystère de l'iniquité, c'est vraiment le mystère du mal qui s'exprime. Et quand même, ça nous fait réfléchir. On se dit, bien sûr, ils sont des déséquilibrés, bien sûr qu'ils sont en mal de reconnaissance, bien sûr qu'ils trouvent quand même par Internet dans l'islamisme le plus radical, qui est relié évidemment à Daesh et qui a des intérêts à punir la France de faire partie de cette coalition et de frapper les positions de Daesh dans les pays du Moyen-Orient. Bien sûr qu'on peut le dire, mais ça veut dire aussi qu'il y a un profond malaise et un profond vide intérieur qui fait que, bah, la nature ayant horreur du vide, il est rempli par une sorte de fierté, d'action qui nous fait penser qu'on est des hommes, etc. Même si ça dépasse et ça excède complètement la raison.
Monseigneur Ayer, selon vous, l'Église catholique en France a bien réagi suite à l'assassinat du père Hamel ?
Ah ben, je crois que oui, parce que je me souviens, moi j'étais à Cracovie, hein, donc en pleine euphorie des Journées mondiales de la jeunesse, qui ont quand même été un petit peu touchées et marquées hein, par cet effroi. Et je me souviens, dans les catéchèses que je donnais à des jeunes, un jeune qui me dit « oui, mais quand même, parce que je parlais du pardon, moi évidemment, hein, le chrétien parle du pardon, de l'amour des ennemis, alors c'est facile à dire, c'est écrit dans l'évangile, donc on ne peut pas arracher cette page d'évangile. » Et il me disait « mais alors, est-ce que c'est normal d'avoir de la colère après ?» Alors je dis ben, « c'est le contraire qui serait inquiétant. » Que des actes si répréhensibles ne suscitent pas en nous de la colère légitime, hein, qui exprime aussi la conscience que nous avons du bien et du mal, de choses qui sont bonnes, de choses qui sont mauvaises et absolument mauvaises. Mais en même temps, la colère est une passion qui doit être reprise en main par la raison et dont doit être orientée vers la manifestation d'une vertu. Et en l'occurrence, c'est la vertu de force. Comment se défendre et comment défendre le bien commun et comment défendre une société lorsqu'elle est atteinte. Et ça, c'est au pouvoir public et aux forces de sécurité, effectivement, de faire face à cette nouvelle forme de violence qu'est le terrorisme islamiste par des moyens de sécurité à mettre en œuvre. Et puis, c'est aussi la vertu de justice. Parce qu'une faute grave qui met en péril la vie de son prochain et l'équilibre d'une société nécessite en effet des peines, hein, et qui sont à la fois des peines qui peuvent être même, des actions de justice, dissuasives. Bon. Mais cependant, je pense que l'Église a bien réagi dans la mesure où elle n'a pas exploité cette peur légitime qui a été causée par ces actes terroristes chez des prêtres, chez les citoyens français, et elle a aidé à aller au-dessus, c'est-à-dire à réagir de manière chrétienne.
Hein. La présence des musulmans le dimanche suivant aux célébrations eucharistiques dans certaines villes ou villages de France, ça a été un réconfort pour vous ?
Je ne sais pas si c'est un réconfort. Je pense que c'est une bonne chose que des musulmans, qui évidemment n'étaient pas en grand nombre, on s'en doute bien, aient participé aux messes que nous avons célébrées dans nos églises suite à cet attentat pour réunir les catholiques dans la prière, hein, dans la confiance en Dieu et dans l'espérance, de manière aussi à rappeler à nos frères musulmans avec qui nous vivons quand même en bonne intelligence d'une manière habituelle, eh ben que de se démarquer eux-mêmes très visiblement et publiquement de ces actes commis au nom de l'islam. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Alors moi, je ne suis pas en train de me dire c'est le véritable islam, ça n'est pas le véritable islam. Il n'y a pas de magistère et pas de clergé dans l'islam, donc ce n'est pas moi qui me substituerai à leur clergé ou à leur magistère. Chacun peut dire, parmi les musulmans, ce qu'il se réfère à l'islam pour lui. Hein, c'est la grande liberté, si je puis dire. Mais en même temps, c'était important que les musulmans avec qui nous avons des relations cordiales, amicales dans notre pays, puissent manifester de cette manière-là qu'ils réprouvent absolument ce genre d'actes commis par des musulmans au nom de l'islam.
En tant que chrétien, on nous dit toujours que notre seule arme, c'est la prière. Alors, bien sûr, vous allez nous dire, il faut prier. Est-ce qu'on peut faire autre chose face à cette menace qui augmente ?
Alors, bien sûr, la prière, c'est la première chose, ça c'est vrai. Il faut prier le Seigneur de nous venir en aide, hein, de nous secourir. Le Seigneur est un Dieu provident qui est proche des hommes, qui est proche du peuple, qui veut le bien, et dont l'épreuve est aussi une expérience qui nous permet de nous tourner vers Dieu pour mettre notre confiance en Dieu. La prière, c'est l'abandon entre les mains de Dieu, mais c'est pas du quiétisme pour autant. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, les pouvoirs, les forces de sécurité, les forces gouvernementales ont leur propre partition à jouer dans ce, dans ce, dans ce concert de réaction. Mais nous, chrétiens, il faut tuer la haine. Hein, et on tue pas la haine en tuant l'autre. On tue la haine en la tuant en nous. Et en se disant que même s'il n'y a pas de proportion entre tous les petits mouvements de haine que je me concède tous les jours dans ma vie vis-à-vis de mes frères, et cette haine déployée de manière aveugle et excessive, s'il n'y a pas de commune comparaison, il n'empêche que je combats la haine qui se déploie à l'extérieur en combattant les mouvements de violence et de haine qui sont en moi. Et donc je pense que ça nous appelle forcément à une conversion. Jésus a tué la haine dans sa propre personne, nous dit saint Paul. Ça veut dire que cette haine-là qui se déploie, cette violence qui provoque une légitime colère en moi, eh bien, ne doit pas rentrer dans mon cœur et me conduire à une surenchère au plan de la violence et de la haine. Ça, c'est la manière de se positionner comme chrétien face à cette haine terroriste et que pour autant, je n'accepte pas.
Dimanche dernier, le 2 octobre, Mgr Lebrun, l'archevêque de Rouen, a annoncé que le pape permettait l'ouverture tout de suite du procès en béatification du Père Hamel. Normalement, il faut 5 ans. Vous vous réjouissez de cette
annonce? Ah oui, bien sûr que je me réjouis de ça. Hein, c'est sûr qu'il a déjà dit lui-même sans embâche qu'il considérait le Père Hamel comme un martyr. J'ai lu dans Famille Chrétienne, la semaine dernière, une interview bouleversante de ce monsieur Guy Copney qui était à la messe avec son épouse alors qu'ils allaient célébrer leurs 65 ans de mariage, qui lui miraculeusement n'est pas mort, mais a été lui aussi égorgé. Et j'ai vu cette attitude chrétienne magnifique qui mérite d'être témoigné. Hein. Lui-même dit que bon, c'est un homme très humble, très modeste, qui n'aime pas beaucoup être sous les projecteurs, mais il s'est dit, si le Seigneur a permis ça, ben, c'est aussi pour que je puisse confesser devant le monde la miséricorde du Seigneur, quoi. Hein. Et l'attitude de quelqu'un qui reste uni à Dieu dans la prière, qui n'est pas dans l'amertume et la colère, et qui est prêt à pardonner, hein, même s'il reconnaît qu'il pardonnera du fond du cœur quand il paraîtra devant Dieu. Mais je trouve que tout ça, c'est donc très important que un prêtre ordinaire, des chrétiens ordinaires, mais ordinaires. On ne sait pas la qualité de son âme, mais visiblement, le Seigneur ne s'est pas trompé. D'ailleurs, quand la sœur Danielle est interrogée en disant bah, « Tous vous avez réchappé, et donc vous êtes miraculé », mais le Père Hamel, lui, n'est pas miraculé, alors. Oui, mais c'est autre chose, il dit. Il était prêt, il venait de célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe, dit-elle. Il venait de célébrer l'agneau immolé pour nous, il était identifié par son sacerdoce et par sa communion, et le Seigneur, on a fait un témoin hein, de la foi pour notre monde d'aujourd'hui. Bon, donc, je me réjouis que le pape ait écourté, comme Benoît XVI avait fait pour Jean-Paul II, comme Jean-Paul II l'avait fait pour Mère Teresa, eh bien, ait écourté le délai de 5 ans pour lancer le plus vite possible un procès, une enquête en béatification.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayer, nous reprenons avec vous cette émission. Nous allons parler des jeunes, puisque un des grands événements de cet été, c'était les JMJ à Cracovie. Vous avez accompagné les jeunes de notre diocèse du 19 au 31 juillet. En deux mots, qu'est-ce que vous retenez et puis quel est le message que vous donnez à ces jeunes pour qu'ils continuent d'utiliser les fruits de ces JMJ?
Alors, c'était des journées très riches. Bon, je suis parti avec eux en bus. Donc 43 heures de bus quasiment non-stop, moins une halte à Ars jusqu'à Częstochowa, la première étape que nous étions donnée, avant de rejoindre le diocèse d'accueil qui était Sandomierz, ce diocèse d'où sont ressortissants les deux prêtres polonais qui sont notre diocèse, le père Simon et le père Camille, et qui avaient bien préparé les choses avec les paroisses et les familles qui nous accueillaient. Alors il y a beaucoup de choses évidemment, hein. D'abord c'est la cohésion de ce groupe, constitué de mineurs et de majeurs, bien accompagnés par les responsables de la pastorale des jeunes et de ces groupes laïcs.
Vous avez retrouvé aussi les jeunes handicapés de
oui.
l'HBB.
Je vous en dirai un mot. C'est vrai, oui. Et puis il y avait en comptant les deux prêtres polonais, il y avait 8 prêtres quand même hein, qui accompagnaient ces jeunes. Donc c'était quand même très intéressant. en général des jeunes prêtres, et puis des prêtres qui ou sont curés de paroisse ou sont responsables, enfin aumôniers dans des groupes d'aumôneries. Donc c'était quand même très très beau, la cohésion de ces jeunes et puis l'enthousiasme de ces jeunes. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un bon climat, quoi. C'était bon, peut-être que ces deux journées de bus pour rejoindre le lieu a aidé à la cohésion, forcément. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, donc c'est l'accueil des Polonais, hein, la première semaine où nous étions à Sandomierz, un accueil extraordinaire, une hospitalité que je ne saurais décrire. Hein, l'accueil dans les familles, l'accueil dans les paroisses, le programme qui avait été concocté, tout était rubis sur l'ongle, avec un vrai professionnalisme, y compris dans les animations, les moments artistiques que nous avons connus, etc. Ensuite, la deuxième semaine à Cracovie, évidemment, c'est la semaine des Journées mondiales de la jeunesse, avec le Festival de la jeunesse, les catéchèses le matin, hein, mercredi, jeudi, vendredi, l'accueil du pape le jeudi soir, la messe d'ouverture le mardi soir avec l'archevêque de Cracovie, et puis ensuite bah, tous les éléments, le chemin de croix avec le pape, la veillée sur le campus Miséricordie avec le pape, et la messe finale, donc le point d'orgue de ces Journées de la jeunesse. Avec la présence, de nos jeunes andis, hein, l'âge bébé qui était présent cette deuxième semaine, que j'ai réussi quand même à rejoindre, parce que c'était forcément très grand, avec des distances énormes, aussi des impératifs pour moi, parce que j'étais évêque catéchiste, donc chaque jour j'allais faire une catéchèse avec un groupe différent, parfois à 30 km ou 70 km de Cracovie, mais j'étais heureux de les retrouver en plein centre-ville de Cracovie, de pouvoir leur offrir une bière ou une boisson, et puis de passer un bon moment avec les gens qui passaient, avec leurs drapeaux, dans l'effervescence des JMJ.
C'était l'occasion peut-être pour vous aussi d'être proche de certains jeunes qui ne vous connaissaient pas ?
Alors ils me connaissent, et puis je les connais bien, parce qu'on les voit très souvent pendant l'année. Je les vois au moins deux moments privilégiés, au moment des JDJ, où je passe déjà pas mal de temps avec eux, et puis au moment du pèlerinage de l'âge bébé, hein, en septembre, où nous avons aussi beaucoup de contacts. Donc en fait, on se connaît bien, et on se retrouve, et on se reconnaît. Vous savez comment les jeunes en dit, ont une espèce de contact extrêmement spontané, et donc ça me donnait l'occasion encore de les revoir dans un autre contexte, vraiment, qui pour eux était un peu surréaliste quand même, hein, on est à Cracovie. Voilà, et puis ensuite, ça a été les rassemblements avec les catéchèses, qui sont toujours très frappantes et qui, moi, me frappent toujours. Je vois, malgré des heures d'attente, de transport en commun, qui n'étaient pas toujours très faciles pour ces jeunes, parce qu'ils étaient souvent logés loin, avec des tramways qui étaient qui s'arrêtaient tout d'un coup parce que le pape passait, et donc c'était, tout le monde était arrêté. Il y en a même qui ne pouvaient même pas participer au rassemblement avec le pape parce que les tramways, ils étaient bloqués dans un tramway, puis quand ils sont arrivés, tout était fini, quoi. Et parce que le pape avait décidé de venir en tramway de l'archevêché jusqu'au Boignat, là, au début, quand ça se passait dans ce grand terrain qui se trouve au centre-ville de Cracovie, où Jean-Paul II rassemblait les fidèles de Cracovie quand il venait en Pologne. Et voilà, donc il y a eu ces petits inconvénients-là. Mais bon, les catéchèses, malgré tout ça, l'attention de ces jeunes. Mercredi, jeudi, vendredi, toute la matinée, elle a passé dans l'église quand même. Avec un temps de louange, la catéchèse de l'évêque, question-réponse avec l'évêque, la messe. Puis ensuite, ils partaient pour rejoindre Cracovie comme ils pouvaient pour le festival des jeunes. Impressionnant de voir la qualité de l'attention, de la réceptivité, la maturité des questions. Et puis l'importance, c'est les questions existentielles que ces jeunes se posent et qui sont vraiment là, comme l'avait révélé d'ailleurs l'enquête de la vie, hein, préalable à ces JMJ, en parlant du profil des jeunes JMJistes français, la qualité de l'expérience spirituelle que ces jeunes veulent faire quand ils vont à Cracovie.
Donc il y a quand même du recueillement malgré la fête, le bruit, le nombre de jeunes. Ah, on, oui, peut vraiment vivre un moment fort de recueillement.
Vraiment, il y a des temps de recueillement, des temps d'adoration. Dans le festival des jeunes, quand vous allez d'un endroit à l'autre, il y a des endroits plus silencieux, des endroits plus turbulents, avec des groupes de pop louanges comme Glorious et autres qui ont fait évidemment recette, si je puis dire. Le sacrement de la réconciliation, hein, le nombre de jeunes qui se sont approchés évidemment de ce sacrement. Le temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, le soir de la veillée, là, hein, au moins pour ceux qui n'étaient pas trop loin, C'était quand même, tout ça était très impressionnant. Les moments de silence que le pape a demandé à toute cette foule, tout en parlant avec eux, je crois que c'était le vendredi ou le samedi, en les faisant se lever, allez, on se donne tous la main, et on reste en silence, on prie en silence. Silence, 2 millions de jeunes en silence, enfin, c'est quand même très impressionnant. Et les fruits que j'en attends, c'est toujours, ça booste toujours, hein, la passion des jeunes. En plus, le pape leur a bien parlé, hein, il sait parler aux foules et aux jeunes, il sait les faire réagir, même s'ils ne réagissent pas forcément aussi spontanément qu'ils pouvaient réagir autrefois, parce qu'ils ne parlent que l'italien, hein, donc ils écoutent avec leur petite radio, mais ils sont très attentifs. Hein, et puis il les fait réagir, voilà, il leur pose des questions, alors ils essaient d'y répondre, et puis il dit plus fort, j'ai pas entendu, enfin bon bref. Donc il y a tout un jeu, hein, là.
Le conseil de ne pas rester dans son divan, il va être suivi.
C'est ça, je pense, tout ça c'est des images et des exemples qui peuvent les bouger. Et puis, pour ce qui est des fruits, il y en a sûrement beaucoup, j'ai pas encore vu, c'est le 16 octobre que nous allons avoir la journée de retour des GMJ à Belloc. Mais il y a déjà des vocations de jeunes qui sont venus voir, qui sont de notre Béarn natale, enfin locale, et qui sont venus, qui sont en terminale. Hein, donc c'est pas seulement des gamins de cinquième qui sont venus me voir pour me dire qu'au JMJ, en particulier pendant les catéchèses, il y a eu quelque chose qui s'était passé, qui avait confirmé ou qui les avait interpellés très très fortement avec ce vrai désir déterminé de devenir prêtre. Bon, moi je peux pas dire que c'est des fruits des JMJ.
Alors vous avez mis en place une nouvelle équipe pour la pastorale des jeunes, pourquoi?
Parce que le responsable délégué diocésain de la pastorale des jeunes, en la personne de Dominique Nalis, avait un contrat, disons, de 3-4 ans, hein, arrivait à échéance avec les JMJ de Cracovie, de 3 ans, puisque comme Jean-Paul Martinon avait le contrat des JMJ de Rio. Et parce qu'il faut aussi qu'il passe aussi à autre chose, hein, il est devenu curé depuis un an, et puis comme vous le savez, je l'ai nommé vicaire épiscopal aussi, donc de la zone du Béarn nord-est, donc il fait partie du conseil épiscopal, donc il était entendu qu'il fallait qu'il passe la main, hein. On a opté pour une nouvelle formule, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a élargi l'équipe de délégation de la pastorale des jeunes, qui était constituée d'un délégué et d'un délégué adjoint. Là, ils sont 5, avec 3 jeunes prêtres, dont un est coordinateur de l'équipe, et puis, alors, qui sont impliqués dans la pastorale des jeunes dans des endroits sensibles du diocèse, la côte basque, le Béarn intérieur et l'agglomération baloise, et avec 2 laïcs, donc le directeur de l'Institut Samuel à Bayonne, et puis la responsable de l'aumônerie des étudiants de Pau, qui était l'ancienne déléguée responsable de l'aumônerie de l'enseignement public à Pau, enfin dans le Béarn, Laure Fontaine, voilà, qui vont constituer l'équipe de délégation, la délégation diocésaine pastorale des jeunes. Ce qui, évidemment, ne fera pas l'économie de l'ensemble du service, hein, et de l'équipe diocésaine qui continuera d'exister pour les liens avec les mouvements, les territoires, etc. Qu'est-ce que j'en attends, quelles orientations? Il faut d'abord que je puisse les réunir, qu'on puisse les réunir ensemble, continuer en tout cas le travail qui s'est fait et certainement surfer sur, comme on le fait chaque fois, sur les acquis et les grâces des JMJ qui viennent de s'achever.
Vous avez évoqué les vocations des jeunes qui ont entendu un appel pendant les JMJ. Le 12 octobre, vous avez béni, inauguré les nouveaux locaux du séminaire. C'était un jour d'action de grâce, de joie pour vous?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est un jour de joie pour moi, mais surtout pour le diocèse, pour les séminaristes, bien sûr, et pour tous ceux qui travaillent à la formation de ces jeunes candidats au sacerdoce. Mais je pense que pour tout le diocèse aussi, hein, c'est assez rare qu'on puisse penser à agrandir un séminaire.
Ils sont combien cette année?
Alors, ils sont dans la maison même du séminaire de Bayonne, donc dans les anciens et nouveaux locaux. Ils sont 23 à habiter sur place, avec 2 prêtres permanents, le supérieur et puis son adjoint. Ensuite, vous en avez 2 qui sont à Rome, toujours. Il faut compter encore les 3 diacres qui font partie. Encore des séminaristes qui sont pas ordonnés prêtres, sont toujours en formation, et enfin 6 qui sont en stage. Hein, donc ça doit faire à peu près 34 jeunes qui se préparent au sacerdoce ou qui le discernent en propédeutique, qui discernent leur vocation.
Donc on devrait avoir des ordinations, normalement.
Alors cette année, on aura au moins trois prêtres, hein, puisqu'il y avait trois diacres, et puis un certain nombre de diacres aussi. Et là, je dois dire que ce sera peut-être un peu plus. Ce qui me frappe, bien sûr, c'est pourquoi on en est là. Personne n'a son attribué le mérite que Dieu, hein, car c'est lui qui donne les vocations. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi, et vous savez combien je crois à la prière pour les vocations. Et quand je suis arrivé dans ce diocèse, et ça me revient maintenant plus, je me souviens qu'il y avait des équipes vocationnelles de zone. Et il y avait encore des petits groupes de personnes qui fidèlement continuaient dans leur paroisse ou dans leur territoire de zone à prier pour les vocations. Hein, on m'a l'a rappelé récemment, avant que j'arrive, depuis 5 ans, il y avait un petit groupe qui se réunissait régulièrement au refuge pour prier pour les vocations. Donc c'est quand même très important. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de dire dimanche, en commentant la première lecture tirée du livre d'Habacuc, où il parle de la prière, et quand on voit les difficultés, dire que Dieu répond sans retard à cause de notre fidélité, ben, je me dis que la prière pour les vocations, qui a bien précédé ma venue dans ce diocèse, qui ensuite a été accrue par ces deux chapelles d'adoration perpétuelle que nous avons ouvertes le 25 mars 2009 à Bayonne et le 12 novembre 2009 à Pau, c'est-à-dire il y a maintenant 7 ans, où à peu près 500 à 600 fidèles sont engagés à une heure d'adoration par semaine, et où les fidèles se relaient 24 heures sur 24 devant le Saint-Sacrement pour demander des vocations, ben je pense bien que toute cette prière qui m'a précédé, bien sûr, et cette prière qui accompagne mon ministère depuis 8 ans maintenant, enfin 7 ans, porte du fruit.
Il y a aussi les missions thérésiennes avec les enfants qui
prient pour les vocations. Oui, les enfants qui prient pour les séminaristes, oui. Non, je pense que tout ça porte du fruit. La prière est vraiment au cœur de notre dispositif. C'est vrai pour l'ensemble de la mission, mais c'est vrai en particulier pour les vocations. Prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, dit Jésus.
Radio Lapourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, nous sommes avec vous sur Radio Présence et Radio Lapourdi pour parler des sujets du mois avec bientôt le 16 octobre la Manif pour tous qui appelle beaucoup de personnes à venir combattre des sujets de questions sociétales, la PMA, la GPA, défendre la famille. C'est vrai que ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas si vous irez à cette manifestation. En tout cas, vous soutenez ces combats.
Alors vous savez combien j'ai toujours été attentif à ce combat pour la famille, de la fameuse Manif pour tous, qui a rassemblé de manière aconfessionnelle et apolitique, au sens où c'était ni un parti politique, ni une église qui prenait la tête du cortège, si je puis dire, et qui avait l'initiative de se mettre de ce mouvement, mais comme citoyen et aussi comme évêque, qui suis évidemment soucieux de ce bien commun, et de ce patrimoine mondial de l'humanité qu'est la famille, hein, fondé sur l'union stable entre un homme et une femme ouvert à la vie, j'avais pris aussi, moi, la décision de participer, d'encourager, dans le respect des consciences et de la liberté, bien entendu, hein, et moi-même d'y participer. Bon, il est évident que là, nous sommes dans un autre contexte, qui est un contexte préélectoral, qui précède les primaires, qui précède les élections. Autant je trouve tout à fait normal et j'encourage même les fidèles laïcs qui, au nom de leur engagement dans la cité, pourront participer à cette manifestation, et je pense que c'est sûrement une bonne chose. Mais là, pour ma part, je pense avoir un autre devoir de réserve, et là, je dirais que le contexte est trop politisé encore pour que je m'engage là à participer à cette manifestation.
Parlons un peu de la GPA, la gestation pour autrui, c'est quand même un gros souci qui se profile à l'horizon et qui est déjà en place dans de nombreux pays.
Bien sûr, je crois que c'est finalement là. Vous avez bien compris que c'est la raison pour laquelle l'Église s'était quand même engagée par des prises de position assez unanimes parmi les évêques de France et même certains participants à la manifestation, à la Manif pour tous en 2013. On voit bien que la PMA comme la GPA sont une conséquence inéluctable de la légalisation du mariage des personnes entre personnes de même sexe, malgré les pétitions de principe qui avaient été invoquées à l'époque par ce gouvernement qui avait juré ses grands dieux qu'il n'y aurait pas de GPA. Or, c'est logique, hein, selon le principe de non-discrimination qui est toujours invoqué, selon ce principe aussi en droit que le mariage ouvre nécessairement la filiation et qu'on ne peut pas le séparer de la filiation, dans la mesure où on est allé jusqu'à la notion de mariage, il fallait se rendre à l'évidence que la PMA et la GPA arriveraient sur le tapis, avec cette manipulation de la dignité de la personne humaine à son commencement qui est à la clé. Voilà. Donc c'est évident qu'on ne peut pas, nous, dans l'Église catholique, adhérer hein, à cette évolution sociétale qui, à mon sens, est une régression par rapport à la dignité de la personne humaine, à la nature profonde du mariage et de la famille, qui font partie de l'équilibre fondamental d'une société. Et on le sait bien d'ailleurs par la négative, puisqu'on voit bien ce que le divorce, les unions de fait, etc., peuvent induire de dysfonctionnement au niveau de la société, en particulier pour les enfants, qui sont évidemment ceux qui trinquent le plus de toutes ces difficultés. Et donc, voilà, donc je pense que c'est un véritable enjeu que ce qui se profile quand même dans les évolutions législatives de notre société.
Vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui veulent un enfant avec ce procédé ?
Bien sûr. Moi, j'accueille les personnes. Alors ça, c'est aussi quelque chose de différent. Je ne leur mens pas dans mon discours sur la marchandise, mais je leur indique, j'essaie de leur montrer qu'est-ce qui ne convient pas à la dignité de la personne humaine. Après, on accueille toujours les personnes avec respect et amour. Hein. Il y a une chose et la vérité qui structure la vie d'une société, qui est une vérité référente, qui permet à tous d'entrer dans une vie conforme à la dignité de la personne humaine, où personne ne reste sur le bord de la route. Et une autre est d'accueillir les personnes et de les aider à discerner, d'éclairer parfois leur conscience, de les accompagner aussi. Ça, c'est une autre paire de manches.
C'est quand même la marchandisation de l'être humain à travers la GPA qui est
mise en œuvre. Mais ça, c'est évident, oui, c'est la marchandisation de l'être humain, oui, tout à fait.
Alors qu'il y a bientôt des élections, c'est vrai qu'on va, nous chrétiens, devoir choisir selon certains critères. Est-ce que ces critères d'atteinte à la vie font partie de ce qu'on appelle des critères non négociables? Et dans ce cas-là, il ne reste plus beaucoup de candidats. C'est ça le problème pour les chrétiens.
C'est bien. C'est toujours un problème fondamental que d'étudier sérieusement les programmes politiques et de voir quels sont les points essentiels, fondamentaux, sur lesquels on peut aussi faire évoluer des candidats. Donc la période qui précède les élections peut être une période de dialogue où on peut aussi inviter les candidats au-delà de l'électoralisme dans lequel ils sont souvent engagés à cause de la concurrence entre la multiplicité des candidats, eh bien les faire évoluer en disant vous recherchez le bien commun, mais est-ce que vous avez bien réfléchi que ça va absolument contre le bien commun de la société, contre la dignité de la personne humaine? Et donc nous, on ne doit pas se dire tout de suite j'évacue ce candidat, dire s'il y a des candidats qui me paraissent plus proches sur bien des points de ma conception de la société et de la politique telle que nous, dans l'Église, nous le croyons grâce à la doctrine sociale de l'Église, on peut dialoguer avec eux, on peut entrer en discussion, on peut essayer de les faire évoluer en attirant leur attention sur les difficultés que nous y voyons.
Est-ce qu'il y a d'autres critères non négociables, selon vous, à part l'atteinte à la vie? Il peut y avoir aussi l'accueil du migrant.
C'est la famille, c'est la solidarité de manière générale dans une société, c'est l'éducation des enfants.
C'est beaucoup de choses.
Et puis c'est le respect de la dignité de toute personne humaine, quelle qu'elle soit. Hein, donc c'est pas seulement de la conception à la mort naturelle, mais c'est aussi dans l'entre-deux.
Hein. Ça peut passer aussi par l'accueil des réfugiés.
Bien sûr, bien sûr.
Autre sujet, le pape François a déclenché une polémique tout récemment, dimanche 2 octobre, en accusant les manuels scolaires français de propager la théorie du genre, du gender. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui est encore toute chaude? Est-ce que le pape a bien fait de mettre les pieds dans le plat?
Je suis pas le pape, hein. Donc j'estime que le pape réagit comme il peut réagir. Alors il y a ses discours qu'il prononce, les discours qui ont été préparés ou pas préparés d'ailleurs. Parce qu'en Géorgie, il a préféré parler directement et de ses questions avec les fidèles qui étaient rassemblés. Et c'est sur cette conférence ou cet échange qu'il a eu qu'il est revenu avec les journalistes dans l'avion en revenant de son voyage. Alors c'est toujours périlleux quand on revient d'un voyage apostolique et qu'on a quasiment 80 ans, parce qu'on a le droit d'être un peu fatigué, et peut-être que c'est un peu audacieux de sa part. Je n'ai pas dit imprudent, vous avez remarqué, mais audacieux de se lancer dans une question-réponse avec les journalistes qu'on maîtrise pas forcément complètement. Bon, ceci dit, il a dit des phrases très fortes qu'il avait déjà dites avant et qui ne sont pas seulement l'émulation de la conversation avec les journalistes. Il a dit qu'il y avait des colonisations idéologiques aujourd'hui dans la société, et il a parlé de la théorie du gender, qui est quand même très identifiée aujourd'hui, menait une guerre mondiale contre la famille. C'est assez intéressant, parce que c'est une expression forte qu'il a employée justement au cours de cette... En disant même, au cours de cette rencontre en Géorgie, que ce qui constituait l'image de Dieu dans l'homme, c'est que Dieu a créé l'homme, homme et femme. Donc c'est l'homme et la femme qui ensemble constituent l'image de Dieu. Et il a même dit des choses très fortes en disant, chaque fois que l'on détruit l'unité de chair, qui provient du mariage, et l'unité de la chair, comme vous le savez, c'est à la fois l'union de l'homme et de la femme, et c'est l'unicité de la chair qui découle de leur union, il dit, détruire l'unité de la chair, c'est salir l'image de Dieu. C'est des paroles très fortes. Hein. Alors après, l'interview avec les journalistes dans l'avion, il a parlé d'un père de famille français qui était venu lui dire que son enfant avait été un peu troublé dans ses propres orientations par des manuels scolaires qui enseignaient explicitement la théorie du genre. C'est pas nouveau, ça, on le sait bien, hein, même si il n'y a que nos gouvernants, avec la complicité des médias généralement en France, qui essaient de nous dire le contraire, mais c'est l'expérience de tout un chacun, parce que il faut être proche du monde réel. J'ai envie de dire, bienvenue dans le monde réel. Et le pape se contente de dire, ben voilà, c'est ce qui se passe quand même dans les chaumières.
Est-ce que vous pensez que son image va être altérée, lui qui était encensé par les médias jusqu'ici ?
Non, et puis alors ? Aujourd'hui, à la messe, on a lu l'épître de Paul aux Galates qui dit « Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire au Christ ». Donc je pense que lui, il est le premier à le savoir mieux que moi et mieux que nous.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Marc Caillet, du 16 au 19 septembre, vous étiez à Lourdes avec les pèlerins du diocèse et les membres de l'hospitalité basco-béarnaise qui célébraient leur 70e anniversaire. C'est toujours un grand moment pour le diocèse.
Un très grand moment, parce que l'hospitalité basco-béarnaise, quand même, est, comme je le dis souvent, est un fleuron du diocèse. Elle rassemble quand même plus de 2000 hospitaliers et hospitalières, avec tous les ans des engagés, nouveaux, souvent des jeunes qui ont mordu à l'hameçon grâce à leur expérience lorsqu'ils étaient lycéens. Chaque année, nous avons quand même 200, cette année 230 lycéens qui participent comme hospitaliers à ce grand pèlerinage de l'HBB. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça passe pas inaperçu. Cette année, on était quand même pendant 4 jours 1800 hospitaliers et malades. 460 malades, je crois, ou 470 malades. Donc c'est quand même une grosse affaire, et rejoint évidemment par des centaines de paroissiens pour la journée proprement diocésaine du dimanche, où là on était sans doute 4000 hein, dans l'église Sainte-Bernadette, qui compte, je crois, 5000 places assises. Donc c'était pas plein, mais enfin, il y a bien 4000 personnes. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que cette messe, justement, du 18 septembre, le dimanche, c'est un peu la messe de rentrée de tout le diocèse ?
Moi j'aime bien le dire et le penser, parce que d'abord ça rassemble de plus en plus de diocésains, qui viennent très volontiers. Et puis c'est vrai que c'est au début de l'année, dans un contexte, dans un cas tout à fait particulier, celui de Lourdes, dans un contexte de charité aussi et d'unité entre nous, qui est justement induit par cette relation entre les bien portants et les malades, les jeunes et les vieux, hein, c'est assez intéressant. Et donc j'aime dire que depuis que nous avons réussi à rétablir cette messe diocésaine qui n'est plus noyée dans la messe internationale de Saint-Pie-X à Sainte-Bernadette, ben, on a vraiment l'occasion là de lancer une nouvelle année pastorale.
Au cours de cette messe qui était donc le début de cette nouvelle année pastorale, est-ce que vous avez évoqué des orientations pour cette nouvelle année ?
Alors disons que ces trois jours m'ont permis de délivrer un message, c'est vrai, aux diocésains, dans le cadre de cette année sainte de la miséricorde. Hein, le vendredi, le samedi, pardon, pour les 70 ans de l'âge bébé, j'ai rappelé la nécessité de passer la porte de la miséricorde pour faire l'expérience de la miséricorde, en particulier à travers le sacrement de la réconciliation, et en rappelant que, comme je le dis souvent, mais je le répète, qu'il ne faut pas qu'on s'étonne des divisions qui peuvent déchirer parfois les familles, les couples, les communautés, des communautés paroissiales ou diocésaines, et le monde dans lequel nous sommes, si nous avons trop facilement déserté ce sacrement de la réconciliation qui est le lieu même et le signe par excellence d'une Église qui est un signe de réconciliation pour le monde. Et j'ai rappelé que le Saint-Père avait mis parmi les actes les plus importants qu'il attendait des fidèles pendant ce jubilé de la miséricorde, la pratique de ce sacrement, en disant avancer avec confiance, s'approcher avec confiance du confessionnal et essayer d'être miséricordieux avec les autres. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dimanche, ayant quand même une bonne représentation du diocèse, j'ai rappelé d'abord que c'était une belle image de ce que doit être l'Église et de ce que doivent être nos assemblées chrétiennes, que les plus petits, les plus faibles, les plus fragiles par la maladie, le handicap ou le grand âge, se retrouvent au centre et à la première place dans notre communauté, et que le service des malades par les hospitaliers était un des premiers engagements que nous devions prendre pour nous approcher des plus petits et des plus faibles, leur donner en effet la première place dont nous recevions d'autres plus que nous leur donnions. Et j'ai évoqué évidemment l'image de ce géant de la charité qui est Mère Thérèse de Calcutta, qui venait d'être le week-end précédent canonisé par le pape François, et qui s'est toujours occupé du plus petit. Et j'ai parlé, c'est pas seulement l'homme rejeté, abandonné, comme ces pauvres sur le bord des routes de Calcutta, mais aussi l'enfant dans le sein de sa mère, en rappelant la synthèse admirable de cette figure de sainteté qui est Mère Teresa, que nous a donné le pape lui-même dans l'homélie de la canonisation. J'ai parlé évidemment des menaces terroristes qui mettaient beaucoup d'inquiétude, mais aussi la précarisation de notre société, hein, parce qu'il y a un nombre croissant de concitoyens qui passent sous le seuil de la pauvreté, et que tout cela pouvait nous inviter aussi à un véritable examen de conscience pour voir quelles sont les responsabilités que nous avons nous aussi dans les maux de notre temps, et dans ce vide intérieur ou ce désert que devient progressivement nos sociétés dites libres et opulentes, qui sont marquées par une culture de la consommation où la vie elle-même devient un produit de consommation. Et en disant, comme l'Évangile m'y invitait, que nous avons souvent remplacé Dieu par des idoles, hein, et qu'il fallait redonner à Dieu sa première place dans notre vie. Et puis enfin, j'ai rappelé que ça nous invitait non seulement à la prière, mais à l'annonce plus explicite de l'Évangile à nos contemporains, et en disant qu'au fond, on avait pendant un an franchi la porte de la miséricorde pour entrer dans l'Église et faire l'expérience de l'amour de Dieu, et bien maintenant, il fallait franchir la porte de la miséricorde dans l'autre sens, parce que depuis le Concile Vatican II en particulier, l'Église a ouvert une porte sur le monde pour nous inviter à aller témoigner auprès du monde de la miséricorde du Seigneur.
Alors justement, vous parlez de l'année de la miséricorde, comment va-t-elle se conclure dans notre diocèse ?
Elle va se terminer, comme dans tous les diocèses, par une fermeture de la porte qui va avoir lieu le dimanche 13 novembre à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Mais on aura l'occasion de redire l'horaire plus précis, qui m'échappe à l'heure actuelle, et qui permettra de ne pas se contenter de fermer la porte, disons, maintenant c'est fini, on va passer à autre chose. Mais comme je viens de le dire, comment cette porte doit rester ouverte vers le monde.
Est-ce qu'il y a des actions concrètes pour cette année qui sont prévues? Est-ce qu'il y a un diocèse en fait? Est-ce que vous avez déjà une idée de certains rendez-vous?
Alors non, je pense qu'on a pris la décision de faire plutôt diocèse en fait tous les deux ans. Après l'événement communion évangélisation qui a eu lieu l'an dernier, qu'on a déjà un peu débriefé avec le conseil pastoral, avec l'observatoire de la mission, qui est encore à débriefer avec le conseil presbytéral, on s'engage plutôt à promouvoir dans le diocèse des initiatives missionnaires qui capitalisent un peu tout ce que nous avons engrangé à l'aide de ce forum, et en vue de faire un diocèse en fait donc dans deux ans, qui permettra de mettre en valeur des initiatives locales qui seront nées de ce forum. Mais ceci dit, je crois qu'on est déjà bien occupé dans nos paroisses. On a quand même pas mal de chantiers en cours, dont le chantier de la catéchèse, qui est une consultation vaste que nous allons faire maintenant cette année sur la question de l'ordre des sacrements d'initiation chrétienne pour la catéchèse des enfants en âge scolaire. On a la reconstitution du CIFAC, nouvelle formule, mais qui va aussi, après les consultations que nous avons faites déjà, intégrer tout l'acquis, hein, qui n'est pas question de rejeter, avec un comité de pilotage qui sera dirigé par le vicaire général. On a une réflexion qu'on va lancer au conseil presbytéral en particulier sur les fameux pôles missionnaires. Je rappelle que je vais officialiser un premier pôle missionnaire autour de la paroisse de Saint-Palais au début de l'année liturgique prochaine, et on va essayer de faire une feuille de route, un projet de feuille de route qui va être largement discuté au sein presbytéral pour en faire une proposition pour les années à venir sur l'organisation de la mission, hein, selon les orientations missionnaires que j'essaie de donner depuis le début de mon ministère, en particulier par ma lettre pastorale La Charité du Christ nous presse. Voilà, je crois que voilà déjà pas mal de grains à moudre pour tout le monde. Il va y avoir aussi on va revisiter aussi les équipes d'animation paroissiale et les conseils pastoraux, hein, en retravaillant les statuts et en provoquant des rencontres de l'évêque avec les conseils pastoraux et les équipes d'animation paroissiale au niveau du diocèse.
Merci beaucoup, Mgr Marcaillet, de nous avoir accordé cet entretien. Merci aux auditeurs de Radio La Pourdie et de Radio Présence.